Samedi 14 juillet.
Bon ben on va commencer donc quelques mots de présentation et de bienvenue. Donc bonsoir pour ce 14 juillet un peu particulier, donc organisé en commun entre Attaque Pays d'Arles et les Sud. Un 14 juillet qui se veut loin de ceux qui ont comme conception de l'Europe de faire défiler des armées européennes sur les Champs-Élysées ou de garden partiser en rond à l'Élysée, dans des palais, ou même de travailler à leur candidature dans des instances internationales. Là, c'est un 14 juillet qui se veut internationaliste, un 14 juillet qui se veut sous le signe des luttes et de l'espoir. Donc il se déroule en trois temps. Avec ce matin, nous avons passé un film argentin, donc de Fernando Solanas, La dignité du peuple. Ce soir, nous aurons dans le style des banquets républicains, mais beaucoup plus que républicains, altermondialistes, un repas tiré du sac, une camia tirée du couffin, enfin comme on veut. De l'autre côté, là, sur le square Morisot, en contrebas, sous les platanes. Donc vous pouvez apporter à manger, à boire, vous pouvez apporter vos instruments de musique, vous pourrez déclamer, vous pourrez même vous taire. On vous invite à y venir, même les mains vides, on saura partager. Voilà pour ce 14 juillet. Ce qu'on peut dire d'autre, donc, c'est que maintenant on va parler de l'Afrique. On voulait dire quelque chose sur la collaboration entre Attaque et les Sud. C'est que les Sud, c'est un moment extraordinaire dans la vie d'Arles où on peut écouter tout un tas de choses, mais que derrière ces musiques, il y a les coulisses, il y a l'envers du décor, c'est-à-dire ces gens qui font ces musiques, qui vivent ces musiques, ces cultures, ces gens qui se battent aussi, qui existent, notamment aujourd'hui, cette semaine avec beaucoup de musique. Musique africaine, on a encore une vision de l'Afrique qui date, une vision coloniale, comme s'il ne s'était rien passé depuis, mais il se passe beaucoup de choses en Afrique. Il y a eu un forum à Nairobi cette année, il y a également énormément de luttes, il y a un mouvement syndical, il y a des femmes qui se battent, il y a tout un tas de choses qui se passent. Donc là ce soir, donc va nous en parler, donc avec leur micro totalement électrique, alimenté par l'EDF sur un tarif pas encore et encore réglementé, donc profitez-en. Donc on aura Gus Macia, donc qui est membre du conseil scientifique d'Attaque, et donc il préside une association, donc qui vous présentera lui-même. On a également Antoine Chao, qui est animateur de la radio des Sud, entre autres, et on fera circuler le micro tout de suite après cette conférence débat où on espère que vous vous exprimerez beaucoup. Il y aura un concert de musique mandingue ici même, donc on vous invite à y rester. Vous avez là-bas également une table de propagande qui cherche à vous récupérer, naturellement, donc qui est là, où vous pourrez laisser vos coordonnées si vous souhaitez recevoir les informations sur les activités d'Attaque Pays d'Arles. Il y a même des livres si on veut se passer des vacances presque intelligentes. Donc voilà, je vous laisse avec Gus et avec Antoine.
Donc je vais intervenir très rapidement parce que je suis pas du tout spécialiste de la question africaine, mais je vais faire le lien un peu entre le Festival des Sud et donc la prise de parole Attaque. Donc Marie-Jo m'a demandé de la représenter ici. Marie-Jo qui est la directrice et programmatrice du festival. Donc moi j'anime la Radio des Sud, qui est une radio, disons, d'éducation populaire à la radio et par la radio. Donc depuis 8 ans ici, sur l'initiative de Marie-Jo. Et donc voilà, effectivement je pense que c'est intéressant dans le cadre du Festival des Sud, qui accueille beaucoup de musiciens étrangers et notamment africains, de se poser des questions plus profondes sur la relation France-Afrique et sur le mouvement social africain. Donc je pense que c'est très important que ce débat se passe dans le cadre du Festival des Sud, parce que malgré le fait, enfin, en disant que le Festival des Sud reste un festival assez éthique, mais en général, on continue à consommer la culture africaine dans ce qu'on appelle la world music d'une façon assez éhontée. Et je pense que c'est bien de donner la parole, justement, enfin, par le biais de Gus Macia, aux mouvements sociaux africains aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à Gus qui va... Bon, moi j'ai plus une expérience latino-américaine, hein, des luttes et des mouvements sociaux, mais je pense que les expériences latino-américaines, notamment le Chiapas ou la révolution bolivarienne, ont été ou sont toujours un ferment du mouvement altermondialiste, que Gus va présenter un petit peu largement aujourd'hui le mouvement altermondialiste pour après aller à la question du jour qui est quels sont les apports du mouvement social africain à l'altermondialisme.
Je suis très content d'être à Arles puisque en fait ça fait quelques années que nous ne venons plus à Arles pour l'université d'été d'Attaque et c'est bien dommage parce que les universités d'été d'Attaque à Arles nous ont quand même beaucoup fait avancer et marqué. Et j'espère qu'on va pouvoir la reprendre bientôt. Et donc, en fait, je suis membre du Conseil scientifique d'Attaque et je suis aussi d'un des membres fondateurs d'Attaque qui s'appelle le CRID, le Centre de Recherche et d'Information pour le Développement, qui regroupe 53 associations de solidarité internationale que vous connaissez mieux que le CRID lui-même, évidemment, je pense, puisque ça va du Secours populaire au Secours catholique. Ça comprend aussi la Ligue des droits de l'homme, le Mouvement de la paix, Greenpeace, les Amis de la Terre. Et donc, toutes ces associations, disons, sont des associations de solidarité internationale. Et le CRID a été un des membres fondateurs d'Attaque. Je crois que c'est très intéressant de voir que, en fait, dès le départ dans Attaque, la dimension de solidarité internationale a été présente. Il y a d'autres membres fondateurs d'Attaque qui sont d'ailleurs liés au mouvement de solidarité internationale, qui sont membres du CRID ou pas. Et donc, c'est une dimension tout à fait fondamentale. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est plutôt de partir... J'ai hésité d'ailleurs. Est-ce que on part de la situation en Afrique et puis à partir de là, on essaye de regarder quel est le rapport entre le mouvement social africain et le mouvement altermondialiste, où on part du mouvement altermondialiste et puis on essaye de regarder en quoi, finalement, le mouvement altermondialiste apporte quelque chose au mouvement social africain et surtout, le mouvement social africain apporte quelque chose au mouvement altermondialiste. Et finalement, je vais plutôt choisir la deuxième hypothèse, la deuxième proposition, parce que justement, l'intérêt du mouvement altermondialiste, c'est que il est composé des différents mouvements sociaux, et notamment du mouvement social africain. Et que donc, dès le départ, le mouvement social africain est partie prenante. Il n'est pas en dehors du mouvement altermondialiste. Il participe à la construction du mouvement altermondialiste et il apporte des éléments spécifiques. Et d'un autre côté, il contribue à donner ce caractère fondamental du mouvement altermondialiste, c'est que c'est un mouvement mondial. Et ce n'est pas seulement un mouvement international, comme on en a connu jusqu'à maintenant, c'est aussi un mouvement international, puisque évidemment, l'identité ou la dimension nationale d'une grande région africaine, latino-américaine existe. Mais justement, dans le mouvement altermondialiste, il y a une égalité de participation de ces différents mouvements dans la construction du mouvement. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment un dépassement des contradictions que nous connaissons au niveau de notre monde. Et donc ça, c'est un des éléments probablement principaux de l'apport du mouvement social africain. Et après, dans la dernière partie, je rentrerai un peu dans le détail de ce que ça veut dire. Donc, je voudrais aborder peut-être trois grandes idées ou trois propositions, trois hypothèses. La première, c'est qu'est-ce que c'est, comment peut-on définir aujourd'hui le mouvement altermondialiste, disons. Ensuite, comment ce mouvement s'est construit? Et enfin, comment ce mouvement aujourd'hui, quels sont les problèmes que connaît ce mouvement, et à chaque fois, je verrai évidemment comment se fait le rapport avec le mouvement social africain. Mouvement social africain, c'est un mouvement social. Vous savez, chaque période utilise en général son jargon et ses mots. Hein. Donc maintenant, nous disons mouvement social et mouvement citoyen ou mouvement social et citoyen, c'est-à-dire l'ensemble des mouvements qui se préoccupent des questions sociales, des questions démocratiques, des questions citoyennes, des questions écologiques. Et c'est l'ensemble de toutes ces associations, de ces groupements, de ces personnes qui constituent le mouvement social et citoyen africain. Donc ce mouvement n'est pas une organisation, hein, il n'a pas des formes, on n'y adhère pas, il n'y a pas de carte, disons. Hein. Il est très divers, évidemment, puisque il existe dans un très grand nombre dans tous les pays africains. Il y a toujours un mouvement social et citoyen africain, et il dépend de la situation de chacun des pays et même de chacune des régions dans les pays. Mais en même temps, il converge. et ils convergent un peu comme une prise de principe, une prise de position de principe. La volonté de définir un mouvement social africain. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important, que ce n'est pas une addition de mouvements. C'est la construction de quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que le mouvement Alter dans un premier temps ? En fait, le mouvement altermondialiste existe depuis 1980. Ses formes actuelles sont nées plutôt dans les années 2000, à partir de 1995. Mais en tant que mouvement, le mouvement altermondialiste, nous pouvons dire qu'il existe dès 1980. Pourquoi dès 1980 et pourquoi pas avant ? Parce que nous sommes dans une phase de la mondialisation. La mondialisation est un phénomène, bon, relativement récent, disons 3, 4, 5 siècles, pas plus, hein, quand même. Bon. Mais il n'a pas commencé hier. Donc, tous ceux qui disent « ça, c'est la faute de la mondialisation », ça n'a pas de sens. Hein, je veux dire, c'est quand même... Oui, c'est toujours la faute de la mondialisation. On peut dire « c'est la faute de la mondialisation, c'est la faute du capitalisme, etc. Bon. » La mondialisation que nous connaissons actuellement, un historien comme Fernand Braudel, qui l'a définie comme une mondialisation capitaliste, justement, dit « elle commence avec Venise, à peu près 14e, 15e siècle, et à partir de là, elle devient petit à petit dominante. » Donc c'est de ça que nous parlons. Mais dans ce mouvement très large, qui prend plusieurs siècles, il y a des phases, il y a des périodes, et chaque période correspond à des moments particuliers, à des contradictions particulières. Et nous vivons dans une période qui commence dans les années 80, au début des années 80, et que nous appelons, pour simplifier, période néolibérale. Néolibérale, c'est-à-dire une période qui se définit en rupture avec la période précédente. Si vous voulez, la période précédente, c'est la période qui va de 1945 à 1980, et qu'on appelle parfois social-libérale, keynésienne, fordiste, enfin peu importe, disons, c'est une caractérisation. C'est la période de l'après-guerre dans laquelle il y avait un certain compromis social, un équilibre, des contradictions extrêmement fortes. Et à partir de 1980, il y a une rupture. Et cette rupture donne naissance à ce que nous appelons la phase néolibérale. Et donc, le mouvement altermondialiste se définit comme le mouvement de contestation de la phase néolibérale. Parce qu'il faut comprendre que quand on analyse une société ou le monde, eh bien, il y a toujours une logique dominante, mais il y a toujours ce que certains philosophes appellent un mouvement antisystémique. Quelque chose qui va contre la logique dominante. Et on ne peut pas analyser une situation ou un système sans tenir compte des mouvements antisystémiques. Par exemple, effectivement, on ne peut pas tenir compte. On ne peut pas analyser, le capitalisme au XIXe siècle sans tenir compte en même temps des luttes ouvrières. Bon, voilà. Et c'est les deux qui forment le système. Hein, bon. Et donc, effectivement, on ne peut pas comprendre la société dans laquelle nous vivons si on la définit uniquement par sa logique dominante. Il faut aussi tenir compte de tout ce qui lutte contre cette logique dominante et des mouvements qui se définissent contre cette logique. Donc c'est l'ensemble entre la logique dominante et l'antisystème, d'une certaine manière, qui constitue ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le fondement de l'évolution. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce système et cet antisystème ? Je crois que c'est ça qui est intéressant. Bon, effectivement, quand je dis que ça commence en 1980, pourquoi ça commence en 1980 ? Parce que dans la fin des années 70, nous sommes dans une période dans laquelle il y a eu plusieurs phénomènes importants. Il y a eu notamment les grandes indépendances, et notamment les indépendances africaines. Et donc c'était la période de la décolonisation. Et la période de la décolonisation est une période fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Il faut comprendre ça, parce que, évidemment, nous sommes dans une période, comme je le dirai tout à l'heure, de crise de la décolonisation. Mais la crise de la décolonisation fait oublier le pas fantastique qu'a été la décolonisation elle-même. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, chaque peuple considère qu'il a le droit de participer à son avenir et à l'avenir de l'humanité. Et ça, du point de vue philosophique, du point de vue fondamental, quelque chose d'extraordinaire, d'essentiel. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas, même si il y a une crise extrêmement profonde. Et l'Afrique est très marquée par ça. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre l'Afrique sans comprendre que il y a eu cette période de décolonisation extrêmement importante, et en même temps, évidemment, il y a la crise de cette décolonisation, liée à deux éléments fondamentaux. Premier élément, c'est la reprise en main par les puissances dominantes des pays qui s'étaient décolonisés. Et cette reprise en main, elle s'est faite à travers deux armes principales. La première, ce sont les guerres, ce sont les opérations militaires. N'oublions pas, et la France a participé et a fait beaucoup d'opérations militaires au Zaïre et dans beaucoup d'autres pays, par exemple, enfin, l'actuelle République démocratique du Congo. Dans un très grand nombre de pays, l'armée française est intervenue. Et surtout, la crise de la dette. C'est la dette qui a été une arme de remise au pas de chacun des pays pour obliger chacun des pays africains, dans le monde, mais particulièrement africains, à s'ajuster au marché mondial. Mais pourquoi est-ce que ça a marché, finalement? Après tout, l'Afrique avait réussi à se décoloniser. Pourquoi est-ce que, brutalement, on arrive à la reprendre en main? Parce qu'il y a eu aussi les contradictions internes au régime africain. L'évolution des régimes africains a été une évolution, dans beaucoup de cas, très négative, avec des régimes qui ont été corrompus. Bon, notre régime n'est pas non corrompu, hein, je vais vous dire. Tout le monde doit... Pour ceux qui n'en sont pas convaincus, vous pouvez lire les journaux et lire notamment les comptes rendus des procès sur ELF, et vous verrez justement que la corruption n'est pas réservée à l'Afrique. Mais enfin, ces régimes étaient aussi corrompus, dictatoriaux, répressifs, pas tous, mais il y a eu quand même une remise, disons un échec du point de vue des libertés et de la démocratie. On peut revenir là-dessus d'ailleurs, parce que ce n'est pas seulement l'histoire de l'Afrique, mais c'est notamment l'histoire de l'Afrique. Et l'évolution de ces régimes, finalement, a affaibli la résistance des peuples. Parce qu'il y a eu une rupture entre les dirigeants, même les dirigeants issus des luttes de libération, comme dans le cas de l'Algérie, par exemple, ou du Ghana, ou d'un certain nombre d'autres pays, et les peuples, justement, sur cette question de la démocratie et des libertés. Ce qui fait que les différents régimes africains n'ont pas su résister, et les peuples africains ont eu beaucoup de mal à résister à la reprise en main par les puissances, disons, dominantes de la société mondiale. Donc, premier élément très important, c'est cette crise de la dette. Mais cette crise de la dette, eh bien, cette crise de la dette et des luttes, des interventions militaires, et aussi cette remise en cause, cette évolution des libertés et de la démocratie, mais en fait, elles se traduisent par un très grand nombre de luttes, notamment en Afrique. Des centaines de luttes en Afrique. Et moi, je pense pour ma part que le mouvement altermondialiste commence dès 1980 par les centaines de luttes en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Lutte contre la dette, lutte contre l'ajustement structurel. L'ajustement structurel, c'est le programme de politique et économique qui est imposé aux pays par la Banque mondiale et par le G8. C'est des luttes pour la démocratie, contre la faim, contre justement toute cette évolution, toute cette situation des peuples. Donc voilà, déjà le premier élément pour placer le décor de ce qui va marquer l'évolution justement de l'Afrique et du mouvement social africain. Et ce qu'il y a de très important, c'est de se rendre compte que il y a aujourd'hui un nouveau mouvement social africain qui se développe dans le cadre du mouvement altermondialiste. Et on reviendra là-dessus après pour voir ce que ça veut dire au niveau des syndicats, des organisations paysannes, des mouvements écologistes, des mouvements de défense des droits de l'homme, des droits humains, etc. Mais finalement, est quand même en continuité avec le mouvement africain qui a été le premier mouvement qui s'est opposé au néolibéralisme. Parce que dans les années 80, au début des années 80, il n'y a pas eu de lutte contre le néolibéralisme en Europe, par exemple. Il n'y en a pas eu aux États-Unis non plus. Il n'y en a pas eu au Japon. Les seuls endroits où il y en a eu, c'est en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Et particulièrement en Afrique, où elles ont été très très fortes et très très continues. La deuxième élément de ce mouvement altermondialiste, il est marqué par une deuxième caractéristique, c'est une crise géopolitique. Parce que finalement, le néolibéralisme s'est construit d'abord en remettant en cause la décolonisation. Et ensuite, il s'est construit par la construction, la montée en puissance de l'hégémonie des États-Unis par rapport justement à ce qui existait, c'est-à-dire un monde fondé sur deux blocs. Le bloc de l'Est et le bloc occidental, disons. Le bloc occidental étant dirigé par les États-Unis et le bloc de l'Est étant dirigé par l'Union soviétique. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu une victoire, enfin une défaite en tout cas de ce bloc soviétique, qui est aussi lié à deux choses. D'une part, à une offensive externe. Et cette offensive externe, c'est la course aux armements. Dès 1980, en fait, ça a commencé un peu avant, ça a commencé avec Reagan, disons, avec son fameux programme de course aux étoiles, il y a eu un pas en avant dans la course aux armements qui a permis d'empêcher les pays de l'Est et l'Union soviétique de résoudre le problème devant lequel ils étaient, comment passer d'une économie fondée sur une industrialisation rapide et une accumulation primitive, enfin en quelque sorte, disons, qui avait connu des succès, à une économie de distribution et une économie permettant de meilleures formes de consommation. Donc il y a eu cette offensive qui a été pensée comme ça, c'est pas venu par hasard. Mais en même temps, cette offensive, elle a marché à cause de l'évolution des régimes des régimes soviétiques. J'emprunte ça à un économiste égyptien et international, qui s'appelle Samir Amin, qui dit il vaut mieux parler de soviétisme pour ne pas parler de socialisme, parce que sinon on confond les choses. Donc le soviétisme, comme régime, s'est effondré, parce que lui aussi a sous-estimé la question de la démocratie et des libertés, et que finalement, ce sont des régimes dans lesquels se sont développés des régimes dictatoriaux. Et que donc, les peuples n'ont pas défendu ces régimes. Et se sont même retournés contre eux. Et effectivement, de 1980 à 1989, nous voyons la mise, l'isolement la défaite, justement, du soviétisme et de l'Union soviétique qui se voit avec le mur. Bon. Cette crise géopolitique va avoir une très grande importance sur beaucoup d'aspects. Elle va avoir une première conséquence qui va être assez importante, c'est l'hégémonie des États-Unis, c'est-à-dire le passage d'un monde bipolaire à un monde unipolaire. Deuxièmement, elle va avoir comme conséquence le fait que les institutions internationales vont être un peu en contradiction avec cette évolution, et notamment le système des Nations Unies. Système des Nations Unies dans lequel, justement, les pays africains, avec les pays asiatiques et latino-américains, ont construit une nouvelle place. Et donc, il va y avoir une contestation du système des Nations Unies. Et cette contestation du système des Nations Unies, elle va passer par la création du G8. La création du G8 en 1978, qui est une manière de remettre en cause le système des Nations Unies. C'est-à-dire, les 7 pays les plus riches de la planète décident que, eh bien, ils se définissent pas comme les pays les plus riches ou les plus puissants. Ils se définissent comme les pays les plus démocratiques. C'est assez bizarre, mais enfin, c'est comme ça. Et on peut aussi dire, parce que si on regarde les choses comme elles sont, que ce sont tous d'anciennes puissances coloniales. Sauf peut-être le Canada, sur lequel on peut discuter un peu. Donc, il y a un directoire mondial qui est créé à partir de 1978. Ce directoire mondial est un directoire qui s'impose comme l'union des puissants. Vous savez, c'est assez inimaginable quand on y pense. C'est comme si en France, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les 7 familles les plus riches, par exemple L'Oréal, Arnaud, celui qui va acheter les échos actuellement, décider que, voilà, après tout, c'est idiot le Parlement, ça n'a pas d'intérêt le Parlement. On va créer un groupe qui va être, qui va pouvoir dire ce que doit être la politique de la France et ce que doit être, ce que doivent être les nouvelles orientations. Et donc voilà, c'est ça qui est fait. Hein. La construction du G8, c'est réellement le regroupement d'un nouveau directoire mondial. Et ce directoire mondial, il va s'imposer notamment par rapport aux Nations Unies. Et d'autre part, l'échec du soviétisme va mettre en crise toute une série de régimes qui avaient pensé que c'était donc ce que l'on appelait, disons, la différence entre l'Afrique progressiste et l'Afrique modérée. Il y avait beaucoup de régimes, par exemple le régime algérien, le régime tanzanien, un certain nombre de régimes qui étaient sur cette ligne et qui vont effectivement se retrouver un peu démunis par rapport au nouveau contexte international. Donc cette crise géopolitique va être le deuxième élément qui va être très important. À partir de cette période, à partir du moment où ce groupe dominant, ce G8, ce directoire, c'est pas un complot, mais c'est une forme d'institution qui a réussi à battre ou à revenir sur la décolonisation, à revenir sur le système bipolaire, eh bien, il va s'attaquer à la question qui lui parlait principale, c'est-à-dire à la question sociale. Et donc, à partir de 1980, ce que nous allons voir, c'est des nouvelles politiques sociales qui sont fondées sur une nouvelle orientation. Alors que dans la période qui précédait, on avait des politiques qu'on appelait des politiques fordistes ou keynésiennes, c'est-à-dire un équilibre social, bon, qu'on peut discuter, mais enfin dans lequel effectivement les objectifs qui étaient donnés aux politiques économiques, c'était le plein emploi et le développement des marchés intérieurs. Et donc le développement de la consommation au niveau de la consommation de masse. À partir de 1980, il va y avoir une nouvelle politique qui va être fondée sur la revalorisation des profits. L'idée étant, si on revalorise des profits, les gens vont investir et ça va développer l'économie et ça ira mieux après. Et donc, cette revalorisation des profits liquide les politiques de plein emploi et remplace les politiques de plein emploi par des politiques de précarisation. C'est-à-dire, effectivement, le chômage toutes les formes précaires d'emploi. C'est quelque chose qui se développe un peu dans tous les pays du monde et qui a une conséquence très, très importante, notamment en Afrique, dans lequel il n'y avait pas de système salarié extrêmement important. Vous savez que, finalement, le travail salarié dans les pays africains et dans les pays de l'Asie du Sud, d'ailleurs ce sont les deux régions du monde qui ont cette caractéristique, est un travail qu'on appelle parfois travail informel. Il y a peu de gens qui sont salariés. Donc la précarisation ne se fait pas par le fait que des gens sont au chômage, puisqu'ils n'avaient pas d'emploi avant. Enfin, ils avaient un emploi, ils travaillaient évidemment, et ils gagnaient leur vie à travers toute une série de formes d'emploi, mais à travers un élément tout à fait nouveau, c'est le développement de la misère. C'est le passage, comme disent un certain nombre de philosophes, notamment indiens, notamment le prix Nobel Amartya Sen ou Majin Rabena ou un certain nombre d'autres, c'est le passage de la pauvreté à la misère. C'est-à-dire que le monde a toujours vécu avec des fortes zones de pauvreté. C'est quoi la pauvreté ? C'est quand on n'a jamais accès au superflu, quand on a accès juste à l'essentiel. Donc on peut survivre. Et on peut survivre avec dignité parce qu'il existe des solidarités traditionnelles dans ces sociétés. Et là, par contre, avec le développement de la précarisation et du néolibéralisme, on bascule de la pauvreté collective à de la misère individuelle. Les gens sont individualisés, souvent dans des villes, avec une forte, très très forte urbanisation, et on passe d'une période où on manque du superflu à une période où on manque de l'essentiel. Et donc les misères sont liées à des grandes phases de famine. Parce que finalement, par exemple, quand il y a eu la sécheresse au Sahel, on peut dire que la sécheresse est un phénomène climatique. Mais la famine n'est pas un phénomène climatique. La famine est la conséquence de la misère sur une société. Et donc, c'est la manière dont cette société n'est pas capable de répondre à la question de la sécheresse. Et donc, la misère se traduit par la famine et par des situations extrêmement difficiles. Voilà un autre élément qui marque le paysage social africain et dans lequel on voit se développer, à partir des années 80-90, un très grand nombre de réponses en termes d'auto-organisation des pauvres. D'auto-organisation des pauvres à travers des réseaux dans lesquels, d'ailleurs, comme on le verra après, des réseaux notamment de femmes. Ce que apporte le mouvement africain, que l'on retrouve aussi dans certaines d'autres régions du monde, comme par exemple dans la région andine ou dans d'autres régions dans lesquelles la misère est extrêmement forte, eh bien, c'est une auto-organisation, notamment des groupes de femmes capables de construire des formes d'économie sociale, d'économie solidaire, de tontine, de crédit collectif, de crédit rotatif, de prise en charge des enfants, hein, avec une imagination et une capacité assez extraordinaire. Hein. Par exemple, vous savez ce que c'est qu'une tontine ? Une tontine, c'est 10 personnes se regroupent et chacune met, par exemple, 1 centime par jour. Donc ça fait 10 centimes et puis au bout d'un an, ça fait quand même un certain nombre de centimes. Et chacun à son tour, dans cette tontine, peut emprunter l'ensemble de la tontine pour faire ce dont il a besoin. Alors évidemment, parfois c'est parce que finalement il y a une famine ou parfois c'est parce qu'il y a des obsèques. Vous savez, les obsèques, c'est une des manières d'utiliser l'argent collectivement très très importante. Et c'est parfois aussi pour des investissements productifs, pour acheter par exemple une petite charrue, enfin, ou une daba ou un truc comme ça. Ça, c'est un peu ce qu'est une tontine. Mais, et ces tontines, effectivement, donnent un crédit, permettent, c'est souvent des tontines de femmes, permettent effectivement de faire face, de se donner des moyens monétaires de construire de la solidarité dans un petit groupe. Mais j'ai vu il y a une vingtaine d'années, par exemple, à Douala, les femmes qui vendent des cacahuètes dans la rue, eh bien, elles ont fait une tontine. Elles étaient plus d'un millier. Et elles mettaient un franc CFA chaque jour dans la tontine. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont envoyé un enfant étudier en Europe. Donc, vous voyez comment les formes d'organisation partent de formes traditionnelles, mais se complexifient, s'élargissent et deviennent de plus en plus passionnantes, de plus en plus intéressantes. Alors, autre élément qui est aussi très important, que l'on voit se développer avec cette phase néolibérale, c'est la crise écologique. Cette crise écologique, elle est fondée sur plusieurs éléments. Et notamment, elle est fondée d'abord, et nous le savons bien ici, en France par exemple, sur les catastrophes majeures. Les catastrophes deviennent majeures. Et notamment, par exemple, les catastrophes chimiques, comme on peut le voir à Bhopal ou comme on peut le voir ici, comme on a pu le voir à Toulouse, etc. Mais aussi, ce système écologique, il y a un début de prise de conscience dans le mouvement altermondialiste qu'il y a une limite. C'est ce que disait d'ailleurs Brodel. Brodel disait finalement, ce qu'il y a de nouveau dans l'histoire du monde, c'est que ce système monde, il appelait ça le système monde, et maintenant il s'élargit à l'ensemble de la planète. Et donc les limites ne sont pas des limites d'un écosystème ici ou là, c'est les limites de l'écosystème planétaire. Si on veut que tout le monde puisse accéder au niveau de consommation, disons de l'Europe, disons même pas des États-Unis, eh bien il faut 2 à 3 planètes. Bon, donc c'est pas possible. Par rapport à ça, il y a plusieurs propositions qui sont faites. L'une consiste à dire il faut donc changer le mode de développement, il faut changer les modes de consommation. Et l'autre consiste à dire, bon, écoutez, on ne va pas le dire vraiment très fortement, mais tout le monde n'accédera pas à ce niveau de consommation. C'est-à-dire on construit des inégalités sociales liées aux inégalités écologiques. On sait que c'est impossible que tout le monde accèdent au même niveau, eh bien, il y aura des guerres, il y aura des punitions, etc. Mais il y en a qui n'accéderont jamais à ce niveau. D'ailleurs, toute la question, c'est un peu la même manière qu'on résout la question des migrations, par exemple. Quand quelqu'un dit, on peut pas accueillir toute la misère du monde, certains peuvent dire, il faut s'arranger à ce moment-là pour qu'il y ait moins de misère dans le monde. Et d'autres peuvent dire, on va faire des murs pour que les autres puissent pas arriver. Donc c'est un peu ça. Donc on est dans ce système. Mais il y a un autre élément de la crise écologique qui, lui, concerne directement l'Afrique. C'est la question des matières premières, et notamment des matières premières pétrolières, énergétiques. Parce que l'Afrique est une des régions riches du monde. Riche parce que il y a des tas de réserves, de ressources naturelles, etc. Et donc, c'est peut-être d'ailleurs une des raisons du malheur de l'Afrique. Si vous voulez faire un petit exercice qui n'est pas compliqué, vous prenez une carte du monde et vous mettez les guerres dessus. Et puis vous prenez une carte du monde et vous mettez les zones de matières premières et de pétrole. Et vous collez l'une sur l'autre. C'est la même carte. Donc de fait, les matières premières conduisent au conflit. Conflit interne et guerre extérieure. Donc en fait, il y a un problème. Le problème écologique est directement lié aux questions militaires. Et d'ailleurs, il est lié aussi aux questions militaires. On le voit bien en Afrique, par exemple, au Nigeria, les Ogonis, à un moment donné, se sont retrouvés en train d'être déplacés massivement parce qu'on allait faire passer un pipeline. Et une des grandes luttes africaines, ça a été la lutte des Ogonis qui ont réussi à empêcher qu'on ne stérilise leur territoire pour pouvoir faire passer une réserve un pipeline. Mais ça, c'est une histoire permanente en Afrique. C'est une histoire permanente. Toutes les zones de matières premières sont des zones de guerre. Et ça se traduit notamment par quelque chose qui est très très important, c'est ce que l'on appelle le phénomène des friches étatiques. C'est-à-dire que les États disparaissent d'une certaine manière. Des États comme le Sierra Leone, le Liberia, sont liquidés parce que justement, ils empêchent le contrôle des zones de matières premières. Donc voilà, donc une liaison forte entre la question écologique et la question militaire. Et puis, du point de vue de cette phase néolibérale, il y a un élément très très important et pour lequel aussi l'Afrique est en première ligne. Cet élément très important, c'est ce qu'on peut appeler la crise idéologique, la crise dans la bataille des idées. Cette crise idéologique est probablement la plus importante aujourd'hui. C'est quoi la crise idéologique? La crise idéologique, c'est que c'est vrai que dans le monde actuel, l'insécurité augmente. Insécurité sociale d'abord. Effectivement, on ne sait pas vraiment si on ne sera pas au chômage. Et même l'insécurité sociale prend des proportions incroyables. Vous avez peut-être vu ce sondage dans lequel au moment du canal Saint-Martin pour les SDF, on a posé une question aux Français, on leur a demandé « Est-ce que vous pensez que vous avez une chance d'être SDF dans votre vie ?» Eh bien, 50% des Français ont dit « Oui, je crois que j'ai une chance d'être SDF. » Et 76% des travailleurs ont dit « Oui, parce que je peux perdre mon emploi et je peux me retrouver SDF. » Vous vous rendez compte le niveau de l'insécurité intériorisé individuellement par rapport à son avenir. Bon, l'insécurité écologique, puisqu'on ne sait pas de quoi va être fait l'avenir, l'insécurité civique. Évidemment, ceci se traduit avec une réponse qui est apportée depuis justement les années 80, depuis le début du mouvement du néolibéralisme. C'est une réponse à l'insécurité par une idéologie sécuritaire. Ça, c'est là-dessus que nous avons perdu, je pense. C'est là-dessus que, réellement, au cours des 25 dernières années, a été faite la défaite la plus grande de la bataille des idées. Parce que cette idéologie sécuritaire, elle consiste à dire, eh bien, on peut lutter contre l'insécurité par la répression et par la remise en cause des libertés. ça veut dire quoi? Ça veut dire, en quelque sorte, que, si, c'est par exemple la montée en puissance de cette idée complètement absurde de la tolérance zéro. Ça veut dire quoi, la tolérance zéro? Ça veut dire l'intolérance totale. Et donc, on construit des sociétés sur l'idée de l'intolérance. C'est ça qui devient l'idée dominante. Et cette idée, elle a des prolongements extrêmement importants. Elle a quoi comme prolongement, par exemple? Eh bien, elle a comme prolongement le fait que, finalement, s'il y a des gens qui sont pauvres, c'est un peu leur faute. Que finalement, les inégalités sont liées à la génétique. Que même il y a des enfants, dès l'âge de 3 ans, on peut savoir s'ils vont être violents ou pas. Et donc, il faut généraliser les fichiers d'ADN. Il faut généraliser les fichiers. Il faut construire des murs partout. Parce que c'est une manière de se protéger. Mais quand on construit un mur, on ne se protège pas, on s'enferme aussi. On en devient prisonnier. Et donc, ce que l'on voit se développer en Afrique et dans le monde, ce sont des zones protégées. Finalement, les nouvelles zones résidentielles sont des zones avec des miradors, des gardiens, des chiens. C'est incroyable. Donc, cette idéologie sécuritaire, elle pousse justement à cette idée que, par exemple, l'inné peut être supérieur à l'acquis, que les politiques sociales doivent être d'abord défensives et répressives. Et ça, pourquoi est-ce que j'en parle et pourquoi est-ce que pour l'Afrique c'est important? Parce que ça redéveloppe deux idéologies fondamentales. D'abord, la question du racisme. La question du racisme, qui est une question tout à fait fondamentale et qui redevient un élément tout à fait nouveau. Et ensuite, d'ailleurs, j'ai oublié quelle était la deuxième idéologie, mais c'est pas grave, mais enfin bon, ça reviendra. Mais enfin, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire effectivement la construction de la. Et oui, enfin, l'idée aussi que si les Africains, c'est malheureux, ils sont pauvres, mais finalement, c'est un peu leur faute. C'est un peu leur faute. C'est parce qu'ils veulent pas travailler assez, c'est parce qu'ils s'organisent pas, c'est parce qu'ils luttent trop, c'est parce qu'ils veulent migrer. Et donc d'arriver finalement à l'idée qu'il faut refuser la culpabilisation. Et c'est là que je reviens sur cet élément principal, c'est que depuis 1980, recommence l'idée qu'il faut revenir sur la question de la colonisation. Que finalement, si les Africains ont été colonisés, c'était un peu leur faute et c'était finalement pour leur bien. Et quand vous voyez un livre comme celui de Bruckner, écrit dès 1990, je crois, et qui s'appelait Les sanglots de l'homme blanc. Et toute cette idée construite par le Front National, que finalement, le vrai racisme, c'est le racisme anti-blanc. Voilà. Et donc, vous avez un enfermement idéologique de l'Afrique aujourd'hui. Et ce qui est très important, c'est que le nouveau mouvement social africain, il a complètement mis de côté cette idéologie de culpabilisation, et il se construit sur la confiance en lui-même, la confiance en lui-même. Et c'est lié à un élément très important dans l'histoire de l'Afrique. C'est que finalement, la fin de la décolonisation en Afrique, elle date de 10 ans. C'est la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud marque une nouvelle étape du mouvement social africain. Et d'ailleurs, c'est un élément tout à fait déterminant dans la construction du mouvement altermondialiste. C'est la capacité de penser la décolonisation et de penser que la décolonisation n'est pas passée, que la lutte contre la colonisation et les idéologies de la colonisation et contre le racisme sont des éléments nouveaux. Enfin, nouveaux, non, excusez-moi, c'est pas... sont des éléments actuels. Sont des éléments anciens, mais qui restent encore des éléments tout à fait déterminants. Alors, voilà, donc je pourrais passer beaucoup de temps là-dessus, parce que c'est très important de comprendre que le mouvement altermondialiste construit ses propositions à partir de ses critiques. Je prends un exemple. Nous pensons, par exemple, que la croissance actuelle, produit des inégalités. Donc, et que d'autre part, ces inégalités sont liées à des discriminations, parce qu'on n'est pas pauvre par hasard dans nos sociétés. On a plus de chances d'être pauvre si on est femme d'un milieu populaire, jeune d'un milieu populaire, immigré, étranger, handicapé, etc. Et donc, le discours, tous les discours officiels, y compris les discours qu'a mené pendant très longtemps la gauche, ça consistait à dire « il faut de la croissance ». Avec la croissance, on luttera contre les inégalités qui nous permettront de lutter contre les discriminations. Or, nous savons que ce n'est pas vrai. Qu'en réalité, il y a eu de la croissance d'abord. Il y a eu de la croissance. Le monde, la France est 1,8 fois plus riche qu'en 1980 aujourd'hui. Mais il n'y avait pas plus de 200 000 chômeurs et il y avait moins de 70 000 ou 80 000 SDF. Donc la France est plus riche, mais il y a plus de pauvres. Donc les inégalités ont bien augmenté. Et des discriminations aussi. Et donc, ce que nous disons, nous, c'est que il faut construire... Le problème n'est pas la croissance, c'est quel est le type de croissance que l'on peut construire. Et pour le faire, nous devons lutter d'abord contre les discriminations et ensuite contre les inégalités, ou en même temps contre les inégalités. Et c'est comme ça que nous allons construire un nouveau type de croissance. C'est donc une inversion de la nature des politiques que porte le mouvement altermondialiste. Bon, alors voilà, donc ça c'est un peu cette première idée, c'est qu'est-ce que c'est que ce mouvement altermondialiste, comment, contre quoi il se construit d'abord. Mais maintenant, il ne fait pas que se construire contre quelque chose. Il se construit aussi pour quelque chose. Et alors, comment est-ce qu'on peut définir l'alternative portée par le mouvement altermondialiste? Bon, on peut la définir autour de 3 ou 4 idées. Mais je vais juste les énoncer parce que je pense qu'en plus, vous les connaissez. La première idée, c'est après 1989, après la chute du mur de Berlin, il y a quand même l'idée dominante. Elle se traduit dans 2 ou 3 livres qui définissent ces idées dominantes. Le premier livre s'appelle « La fin de l'histoire ». Il est écrit par un Américain qui s'appelle Fukuyama et qui dit « Écoutez, vous savez, on ne peut pas faire mieux que le capitalisme, que le marché et la démocratie. On ne peut pas faire mieux. » D'ailleurs, même ceux qui pensent qu'il faut faire autre chose, c'est des terroristes en puissance. C'est des terroristes. Bon. Ils ne disent pas qu'on ne peut pas améliorer les choses, évidemment. Il n'est pas complètement idiot, quand même. Bon. Mais on peut pas faire un... Il n'y a pas d'autre système possible. C'est la fin de l'histoire. Et le deuxième, c'est Huntington, qui dit « C'est la crise de civilisation. C'est le choc des civilisations. » Ça veut dire quoi, le choc des civilisations? Ça veut dire que ce qui est important, c'est pas le social, c'est pas les luttes sociales. Ce qui est important, c'est quoi? C'est la guerre, c'est la religion, c'est les croyances, c'est toute une série d'autres choses. Et donc, laissons tomber le social, ne nous battons pas trop là-dessus, battons-nous plutôt sur la question des religions. Le mouvement altermondialiste, dès 1995, fait une affirmation qui a l'air d'être une tautologie. Il dit « Ah non, c'est pas vrai ça. Un autre monde est possible. » Mais un autre monde est possible, c'est pas une évidence. Un autre monde est possible, ça veut dire « Non, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. On peut faire autre chose. » Voilà. Ça répond d'ailleurs à... Vous savez que Madame Thatcher... Vous savez comment on l'appelait, Madame Thatcher? On l'appelait Madame Tina. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on lui posait une question, elle disait « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. T-I-N-A. Donc on l'appelait Madame Tina. Et bien donc le mouvement altermondialiste dit « Non, c'est pas vrai. Il y a des alternatives. Un autre monde est possible et il y a des alternatives. » Ça, c'est le point de départ. Hein. Si on n'a pas d'espoir, si on croit qu'il y a une fatalité, ben évidemment, on ne se bat pas, on se résigne. Donc, à partir de 1995, vont commencer des luttes offensives, notamment sur le plan social, avec le mouvement social en France, avec les mouvements en Afrique, en Amérique latine, en Asie, etc. Et le mouvement se construit à partir des formes qui se donnent, notamment les forums sociaux mondiaux. Mais je crois que l'an dernier, vous avez discuté des forums sociaux mondiaux. Comment est-ce qu'on peut définir ce mouvement altermondialiste? Autour de 2 idées. La première, c'est une convergence des mouvements. C'est une convergence des mouvements. D'abord, il n'y a pas un seul mouvement social, il y en a plusieurs. Mais ces mouvements convergent. Et ils sont présents dans le même espace. C'est le mouvement syndical, c'est le mouvement paysan, C'est le mouvement des femmes, c'est le mouvement des jeunes, c'est le mouvement des droits humains, c'est le mouvement de la solidarité internationale, c'est les mouvements écologistes, c'est les mouvements de consommateurs. Bon, vous voyez, il n'y a qu'à regarder autour de nous. D'ailleurs, c'est un peu ça, ATTAC. Hein. Les fondateurs d'ATTAC, c'est la convergence des mouvements, du mouvement altermondialiste. Bon. Et ensuite, premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, il y a une idée qui se développe qui est très importante. C'est que, est-ce qu'on a une alternative à l'idée « il faut ajuster chaque société au marché mondial ?» Parce que les gens qui dirigent, ils ont des idées simples. Il faut des idées simples pour diriger, vous savez. Bon, faut pas se poser trop de questions. Donc leur idée, c'est ce qui est bon pour le marché mondial est bon, c'est une bonne politique. Et ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon pour le marché mondial, c'est une mauvaise politique. Et nous, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Eh bien, on peut dire « oui, non, c'est pas vrai ». Nous avons une alternative. L'alternative, c'est l'accès aux droits pour tous. Ce qui permet d'avancer vers l'accès aux droits pour tous, c'est une bonne politique. Et ce qui éloigne de l'accès aux droits pour tous, c'est une mauvaise politique. Alors, beaucoup de gens disent « oui, mais ça, c'est utopique ». Non, c'est pas utopique. Pas plus que le capitalisme, disons. Hein. Bon. Donc, il y a cette proposition alternative, cette stratégie alternative. Et cette stratégie alternative, elle modifie la nature des mouvements et leur culture. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est un mouvement historique. Par exemple, il y a 4 ou 5 ans, il y a 4 ans, Amnesty International, dans son congrès, décide qu'ils ne s'intéresseront plus qu'aux droits civils et politiques, ils s'intéresseront aussi aux droits économiques, sociaux et culturels. C'est une révolution dans leur esprit. Médecins du Monde décide qu'ils ne vont plus se battre seulement comme une association d'urgence, mais ils vont se battre sur le droit à la santé. Handicap international, pareil. Et donc, tous ces mouvements, le mouvement écologiste et le mouvement des consommateurs, convergent autour des batailles du boycott. La bataille sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, c'est les droits dans l'entreprise. Le mouvement syndical se définit comme un mouvement qui lutte pour les droits qui sont définis par le BIT, par le Bureau international du travail. Donc, il y a une modification culturelle du mouvement autour de cette orientation. C'est ça que porte notre mouvement, c'est ça que porte ATTAC. Nous pensons que nous avons une réponse. Nous avons bon, évidemment, il faut bosser pour l'appliquer. Mais nous avons aussi des propositions qui ne sont pas simplement stratégiques. Pourquoi ? Parce que ce mouvement altermondialiste, il a commencé, évidemment, avec les forums sociaux mondiaux, mais il a commencé aussi dans les grandes manifestations contre le G8, contre le FMI, contre la Banque mondiale, contre les institutions internationales. Et il s'est appuyé sur la réponse qu'ont trouvé les pays du Sud, et notamment les pays africains, à la mise en cause des Nations Unies par les États-Unis et l'Europe. Ce sont les grandes conférences internationales, dont la première a commencé en 92 en Rio. Et ensuite, il y a eu celle de Vienne sur les droits sociaux, celle de Pékin sur les femmes, celle de Copenhague sur le social, celle de Istanbul sur l'habitat. Et dans chacune de ces conférences, il y a eu des contre-sommets qui ont été organisés par les associations. Et ces contre-sommets ont défini des propositions sur le droit à l'eau, sur le droit à la santé, sur le protocole des droits économiques, sociaux et culturels. Donc nous avons un paquet de propositions qui ont même été définies dans le système des Nations Unies, mais à partir du mouvement altermondialiste, à partir de la contestation de ce qu'étaient les propositions. Donc nous avons une orientation générale, nous avons des propositions spécifiques, le Forum social mondial de l'eau, le Forum social des migrations, dont tu pourras parler, il y a toute une série qui ont réfléchi sur des politiques possibles. Et puis, le contre G8. Vous savez que, finalement, une des grandes étapes du mouvement altermondialiste, c'est un 14 juillet. C'est le 14 juillet 1989 à Paris. Le 14 juillet 1989 à Paris, Mitterrand avait trouvé très important, puisque c'était à la France de recevoir le G8, d'inviter à Versailles Reagan et un certain nombre d'autres. Et donc, nous avons organisé deux grandes manifestations. Une première manifestation qui était le premier sommet des 7 peuples parmi les plus pauvres, à la mutualité, et une deuxième manifestation qui s'appelait, qui était un grand concert de Renaud, Johnny Clegg et et Manon Negra d'ailleurs, et un certain nombre d'autres, et qui étaient effectivement ça suffa comme si. C'était d'ailleurs quoi ça suffa comme si? Dette, apartheid, colonie, ça suffa comme si. C'était le programme. Et vous voyez, c'était en quelque sorte 1989, le premier forum mondial, c'est 2000. Eh bien, 1989 va préfigurer ce que vont être les forums sociaux mondiaux. Il faut, oui, il faut que je parle. Alors, mais il faut que je revienne sur l'Afrique un peu, peut-être. Bon, d'accord. Mais je peux arrêter aussi, on peut...
Non, rapidement sur l'Afrique, et bon. Puis après, on fait des questions.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, si vous voulez, c'est que, avec les forums sociaux mondiaux, le premier problème, c'est qu'on se réunit d'abord à Porto Alegre, avec l'idée, on ne va pas passer notre temps à courir après les manifestations organisées par les autres, pour voir qu'est-ce que ça veut dire un autre monde est possible. Et bien à Porto Alegre, la question qui se pose, c'est qu'au bout du deuxième ou troisième Porto Alegre, est-ce que ce que nous sommes en train de faire peut être élargi à d'autres régions? C'est une question fondamentale, parce que sinon, on n'est pas dans l'universel, on est dans le spécifique. Hein. On est d'ailleurs, on disait, qu'est-ce que c'est que le Forum social mondial? C'est un truc latin. C'est l'Europe du Sud, latine, et l'Amérique latine. Voilà. Donc c'est une bonne culture, c'est sympa et tout, mais finalement, est-ce que c'est possible que ça aille ailleurs? Eh bien, il y a eu deux démonstrations. La première démonstration, ça a été à Mumbai, en Inde. Le Forum social mondial de Mumbai a été une révolution, et en Inde d'ailleurs, et dans les mouvements sociaux, pour le Forum social mondial, puisque pour la première fois, on a vu arriver les Dalits et les pauvres dans les forums sociaux mondiaux, et en masse. Et ça a été, et on s'est rendu compte que la forme du Forum social mondial, avec des adaptations évidemment, pouvait se faire dans, notamment en Inde. Et ensuite, ça a été Bamako, et puis Nairobi. Et là, ce que l'Afrique a apporté au Forum social mondial déjà, c'est qu'elle a démontré que il y avait un élargissement possible des forums sociaux mondiaux, notamment en terre africaine, avec les mouvements africains, et que les mouvements africains apportaient des nouvelles dimensions pour élargir ce qu'était l'universalité du mouvement altermondialiste. Et donc, ce que l'Afrique apporte, c'est ça. D'une part, elle démontre que l'élargissement du forum est possible. Elle démontre que la vraie question de l'échelle est la question centrale du Forum social mondial. Le problème, c'est pas qu'il y ait un peu moins de pauvres, c'est qu'il n'y ait plus de pauvres du tout. Est-ce qu'on est capable, justement, de penser ça? Pas de penser « je vais aider quelques pauvres à côté de moi ». Mais il faut plus qu'il y ait de pauvres. Comment nous allons organiser le monde et changer nous-mêmes pour qu'il n'y ait plus de pauvres? Ça, c'est une question philosophique tout à fait fondamentale. Et ça, l'Afrique apporte énormément là-dessus. Parce que, justement, l'Afrique sait penser la question de la pauvreté et sait penser la question la plus importante de la lutte contre la pauvreté. C'est ce que dit Amartya Sen. Amartya Sen dit la lutte contre la pauvreté, c'est d'abord le problème des pauvres. C'est la lutte des pauvres contre la pauvreté. Et quelle est la première revendication des pauvres dans la lutte contre la pauvreté? C'est la dignité. C'est la dignité. Et c'est ça qu'apporte le mouvement social africain. C'est une dimension de dignité dans les luttes. Je pourrais vous en donner des tas d'exemples sur la manière dont se construit la dignité dans les luttes en Afrique et la solidarité. Et donc, voilà. Et puis, un autre élément aussi qu'apporte l'Afrique, c'est que, vous savez, finalement, dans l'histoire du monde, dans la longue histoire, c'est toujours dans les périphéries que se construisent les nouveaux rapports qui ensuite vont permettre des dépassements dans les rapports sociaux. Pourquoi? Parce qu'au centre, dans les centres, dans là où est le pouvoir, les choses sont parfois trop contrôlées. Il y a des luttes qui sont très fortes. Par contre, dans les périphéries, il y a des possibilités. Et là, c'est ce que l'on voit au niveau, justement, du mouvement social africain. Le mouvement social africain définit des nouvelles formes. Des nouvelles formes syndicales. Par exemple, quand nous sommes allés à Bamako, quand nous avons vu arriver les ouvrières d'Yves Rocher, on a bien vu que la lutte qu'elles menaient était une lutte à la fois très forte et en même temps très ouverte, hein, culturellement ouverte, qui permettait une alliance très très large autour d'elle. Bon, j'ai parlé des femmes, je pourrais parler du REFDEF, qui est un mouvement de collectif de femmes africaines qui a été créé par une femme assez extraordinaire qui s'appelle Madjigane Cissé, qui était en France, et on appelait la sans-papière, parce que c'est elle qui avait dirigé la première lutte des sans-papiers. Et elle est repartie au Sénégal et elle a créé un réseau extraordinaire de plusieurs centaines de réseaux de femmes africaines travaillant sur les marchés, etc. Et le syndicalisme paysan, hein, on a bien vu à Nairobi, dans lequel il y avait plus de 40 syndicats. On a vu quelque chose à Nairobi qui était tout à fait inimaginable. Comme on était à Nairobi, on n'était pas loin du Soudan. On a vu arriver plus de 100 syndicalistes soudanais. Moi, j'avais jamais vu plus de 2 ou 3 syndicalistes soudanais à l'extérieur du Soudan. Et là, effectivement, on se rend compte de la puissance. Regardez ce qui s'est passé en Guinée. La force qu'a pris le mouvement syndical d'une certaine manière, j'aime pas le mot avant-garde, mais disons, élément déterminant du mouvement pour la démocratie en Guinée aujourd'hui. Les mouvements paysans, les mouvements sur les matières premières, bon, je pourrais en passer beaucoup de temps, et surtout, l'idée que finalement, l'identité, c'est une identité culturelle. Ce n'est pas une identité au sens le refus de l'autre. Ça, c'est ce que apporte évidemment l'Afrique, que l'on retrouve dans sa musique ou dans ses formes culturelles, mais qui est beaucoup plus profondément dans beaucoup de cultures africaines. C'est cette idée que finalement, la générosité et surtout l'ouverture, c'est une chance pour l'ensemble du mouvement social.
Je crois que c'est... On va passer à quelques questions peut-être du public. Je crois qu'il y a un micro, c'est oui. Ça, baladeur. Donc la partie débat, c'est à vous de poser des questions à Gus.
Oui, bonjour. J'ai pas complètement fini de la décanter dans ma tête la question, donc je vais essayer de la poser de façon la plus claire possible. C'est par rapport au rapport qu'il y a entre, disons, les dominants et les dominés. Je m'interroge sur la nature de la domination. Pour être très schématique, le perspective qui serait plus liée à la phase précédente de la mondialisation, ce serait les rapports d'exploiteurs à exploités, on va dire. J'ai l'impression que sur la phase actuelle, c'est plutôt dominant et puis d'exclu. Dans la phase exploiteur à exploité, je prends un vocabulaire marxiste par facilité, mais on pourrait utiliser un autre, hein, c'est disons que d'ouvriers avec des propriétaires du capital. Ceux qui sont exploités, ils ont une marge de manœuvre. Ils peuvent, par exemple, faire la grève, bloquer. Donc, il y a un rapport de dépendance entre les deux qui fait qu'ils ont effectivement la possibilité de construire une idéologie là-dessus, enfin, des moyens d'action, et donc de construire des rapports de force qui peuvent éventuellement faire changer les choses. Si on est sur de l'exclusion, c'est beaucoup moins évident de construire un rapport de force et de construire et de maîtriser des marges de manœuvre. Et donc c'est par rapport à ça en fait où j'ai pas une très bonne vision de est-ce que quand la recolonisation dont vous avez parlé tout à l'heure, le néocolonialisme, il y a de l'activité de prédation sur les matières premières, mais par rapport à tout ce qu'il y a autour, tout cet immense mouvement de pauvreté, est-ce que c'est de l'exclusion, est-ce que c'est de l'exploitation? Et si c'est de l'exclusion, qu'est-ce qu'on utilise comme moyen, comme levier pour construire un rapport de force et donc une idéologie? C'est même question dans nos banlieues, hein, c'est pas uniquement lié à l'Afrique, hein, c'est... Je crois que la phase actuelle du capitalisme produit de l'exclusion plus que de l'exploitation. Et c'est en cela qu'elle est très difficile à combattre. Parce que finalement, ce rapport de force, c'est le fusil, quoi. S'il n'est pas sur le moyen de production.
On prend une série de plusieurs questions, et puis après. Que nenni.
Non, il risque rien, les vélos. Hein. Alors, j'ai assisté à la fin de votre chat et j'aimerais bien de vous communiquer, étant donné que vous êtes ici au soleil et tout ça, avant de parler des problèmes ailleurs, comme l'alioli, on devrait parler des problèmes ici. Et pour commencer, peut-être que je vous invite à que on se présente en disant quelles sont nos origines, qu'est-ce qu'ils attendaient nos parents de nous, quel est notre parcours, et à partir de là, peut-être qu'on pourrait commencer à se masturber les cerveaux par rapport aux problèmes des autres. Puisque là, on pourrait trouver un élément universel. Peut-être, j'en sais rien. Hein. Merci pour garder les vélos.
De rien. Une autre question masturbatoire ou on change de pratique?
Bon, par rapport à votre dernière question, je suis un peu embêté parce que si je devais raconter mes origines, j'en aurais pour un très long moment parce qu'elles sont très mélangées, comme celles de beaucoup de monde. Et donc je pense que c'est très intéressant de revenir aux origines, mais par rapport au futur possible. Moi, je pense que c'est les projets futurs qui déterminent ce que l'on doit faire et les politiques ou ce que l'on a envie de faire. Et ils sont largement communs, justement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont identiques, mais qu'ils sont largement communs. Je pense que, effectivement, bon, voilà, c'est un peu l'hypothèse, d'ailleurs, sur lequel je reviendrai. Donc, que chacun s'interroge sur ses origines, c'est toujours évidemment très important. C'est impossible de nous interroger tous sur une origine commune, j'imagine. Ou bien ça voudrait dire que l'identité se construit par l'origine. Mais je pense que l'identité se construit autant par le futur que par l'origine. Voilà, bon, mais c'est une hypothèse philosophique, hein. Chacun prend celle qu'il veut, après tout. Bon. Alors maintenant, je voudrais revenir sur le rapport dominant-dominé. C'est une question très, très, très importante et très intéressante. Parce que finalement, la question de l'exploitation n'est évidemment pas disparue. Il existe toujours une forme d'exploitation, il existe toujours une différence entre salaire et profit, on le voit bien aujourd'hui d'ailleurs avec l'évolution des politiques actuelles. Donc ce n'est pas une question out, ce n'est pas une question obsolète. Mais ce que nous voyons, c'est que elle n'a jamais été d'ailleurs, mais elle n'est pas surdéterminante, elle n'est pas unique, voilà, ni surdéterminante. Je m'explique. Sur l'Afrique et l'Asie, par exemple, qui sont des régions dans lesquelles la démographie est extrêmement importante, il y a plusieurs avenirs possibles du point de vue de l'exploitation. Certains disent ce sont des zones de réserve, c'est-à-dire on les met de côté et plus tard on viendra investir là pour pouvoir faire travailler plus de gens pour avoir plus de profit. Hypothèse qui est plutôt optimiste, enfin, qui est faite par certains. D'autres disent on n'a pas besoin de ça. À la limite, je ne dis pas qu'ils disent qu'ils crèvent, mais c'est pas important. C'est pas important de s'en soucier. Bon. Et puis, d'autres disent, écoutez, ce sont les exclus. Et donc, il faut gérer de manière différente ceux qui sont intégrés dans le système, qui ont du travail, qui produisent du profit, etc. Et ceux qui ne le sont pas, et qu'il faut mettre entre parenthèses et gérer comme des poches, comme des réserves. Voilà, les réserves indiennes, comme des réserves. Bon, je pense que les questions ne se résument pas à ça, parce que les représentations, vous savez, il y a évidemment la manière dont les sociétés sont organisées, mais il y a aussi la manière dont on se représente ces sociétés. Les représentations des sociétés mêlent plusieurs choses. Elles mêlent des représentations sociales, en classe sociale. Hein. Mais elles mêlent aussi des représentations religieuses, des représentations nationales, des représentations différentes, etc. Et donc, de ce point de vue, ça ne veut pas dire que la représentation sociale n'est pas importante, mais elle n'est plus unique. D'ailleurs, l'Afrique nous apprend beaucoup là-dessus. Je me rappelle que y a quand même quelque chose qui a été une grande révélation. Auparavant, on avait toujours l'idée de dire il y a l'Europe, là c'est vraiment on a vraiment passé un pas dans la modernité. Et puis il y a l'Afrique, c'est encore quand même le tribalisme. Bon. Mais depuis la Yougoslavie, on peut plus dire ça. Hein. Je veux dire le tribalisme, et puis la Tchétchénie, etc. On voit bien que ce qu'on appelait le tribalisme en Afrique n'est pas une forme passée ou dépassée. C'est une forme d'avenir des peuples quand les contradictions sont mal réglées. C'est la forme que peuvent prendre, justement, les conflits, les guerres, les constructions civiles. Et donc, ce n'est pas une forme passée, ça peut être une forme d'avenir. Et d'ailleurs, ce que nous apprend l'Afrique, c'est quoi ? C'est que le tribalisme n'est pas la réalité. Il est une des faces de la réalité. La réalité, c'est l'utilisation par des couches dominantes du tribalisme pour garder leur pouvoir. C'est ça que nous apprend l'Afrique. C'est qu'effectivement, il y a des différenciations ethniques, religieuses, etc. Mais quand même, à un moment donné, il y a l'utilisation de ces différenciations pour pouvoir la garder le pouvoir par des couches dirigeantes qui savent utiliser ça et qui savent l'utiliser pour diriger, même quand ils sont très très minoritaires, justement en amenant tous les autres à se taper dessus. Alors maintenant, la question que vous posez, qui est très juste, c'est mais finalement, ces exclus, comment est-ce qu'on pense à cette question et comment on réfléchit à cette question ? Justement, je pense que la proposition de l'accès aux droits pour tous est une réponse à cette question. Puisque la question, si on disait que nous sommes toujours sur la question de l'exploitation, on dirait à ce moment-là, la réponse, c'est par exemple la socialisation des moyens de production. Voilà, c'était ça la réponse pour répondre à la question de l'exploitation. Et ça reste toujours quelque chose qui n'est pas faux, qui est intéressant. Mais ça répond pas à la question des exclus, puisqu'ils ne sont pas intégrés dans les moyens de production. Oui, mais l'accès aux droits pour tous, ça répond même si on n'est pas dans la production. Et donc, c'est une réponse correspondant à la période. Alors après, d'ailleurs, ça ne répond pas à toutes les questions de l'accès aux droits pour tous, parce qu'on peut discuter, il y a d'autres débats politiques, philosophiques à l'intérieur de l'accès aux droits pour tous. Est-ce que c'est l'accès aux droits pour tous avec un minimum ? Et comment on définit ce minimum ? Est-ce que c'est par exemple 40 litres par personne ou par jour par rapport à 600 litres en Californie et 350 litres en Europe ? Bon. Ou est-ce que c'est l'égalité d'accès aux droits pour tous, l'égal accès aux droits pour tous, ce qui n'est pas du tout la même chose et qui implique là que l'on reparte sur la question de l'exploitation ou autre. Donc, il y a plusieurs politiques possibles quand on a dit l'accès aux droits pour tous. Mais quand même, c'est une contestation de l'idée on va s'ajuster au marché et ça suffit. D'ailleurs, le mouvement altermondialiste a marqué des points là-dessus. Puisque, par exemple, jusqu'à maintenant, jusqu'il y a 4 ans, dans tous les textes des Nations Unies qui passaient la barre du Conseil de sécurité, eh bien, on disait, quelle est la solution au problème de la pauvreté dans le monde ? Il faut développer le marché mondial. Et je me rappelle même qu'un jour, nous avions développé une idée sur les biens communs mondiaux, les biens publics mondiaux. Et la Banque mondiale a sorti, un an après, un texte en disant, c'est une très bonne idée, les biens publics mondiaux. Le premier bien public mondial, c'est le marché mondial. Voilà. Bon. Donc on voit bien qu'il y a une bataille extrêmement violente là-dessus. Mais quand même, disons, cette contestation du marché a trouvé une petite avancée, puisque les Nations Unies, pour la première fois il y a 4 ans, ont sorti un projet de lutte contre la pauvreté construit sur les objectifs millénaires pour le développement. Et ces objectifs millénaires pour le développement, c'est quoi ? C'est la lutte contre la pauvreté, définie comme la lutte contre la faim, accès pour tous à la production alimentaire, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à la lutte contre le sida. Évidemment, ça a été récupéré. C'est-à-dire que d'une part, c'est de façon scandaleuse, alors que notre monde est un monde très riche, on a pensé que d'ici 2012, on pouvait juste diminuer de moitié la mortalité infantile, on ne pouvait pas la résoudre définitivement. Bon. Et en plus, en Afrique, nous avons fait un calcul. Eh bien, au rythme actuel du financement et de la mise en œuvre des objectifs millénaires du développement, les objectifs du 2012 seront atteints dans 150 ans. Donc on voit bien qu'il y a une récupération. Mais quand même, ils ont été obligés de venir sur notre terrain. C'est-à-dire de dire, oui, c'est vrai, l'accès au marché ne suffit pas. Il faut aussi quand même prendre en compte l'accès au droit. Donc je pense que l'accès au droit est une piste pour aller dans le sens que vous dites, c'est-à-dire c'est pas seulement un problème d'exploitation, il faut tout de suite poser la question plus largement.
Non, juste un petit point là-dessus. Justement, cette fabrique de l'exclusion, elle a été justement mise en place en Afrique depuis pas mal d'années, depuis la colonisation. Et on a bien vu à Nairobi, c'est assez, je dirais, affligeant de voir que les trois quarts de la population habitent de façon tout à fait désocialisée dans les bidonvilles, dans les 3-4 bidonvilles qui enserrent le centre névralgique et économique de la ville. Et vraiment, ça a été une politique sciemment mise en place, justement, de désocialisation. Et à côté de ces programmes de l'ONU, justement, pour réduire la pauvreté, il y a des programmes de l'armée américaine pour pouvoir mater les foyers d'insurrection qui naissent dans ces quartiers défavorisés, quoi.
Voilà, bonjour. Tu as fait une présentation très brillante et très... général du mouvement altermondialiste jusqu'à ces derniers temps. Mais ce que j'aimerais maintenant entendre aussi, c'est le fait que le système ait pris en compte cet altermondialisme, ces propositions alternatives, que ces propositions alternatives sont reprises dans leur code, dans leur terme, dans leur personne. Et aujourd'hui, on est quand même face à des baffes immenses qui viennent de nous tomber dessus, qui nous sont tombés dessus pas tout à fait par hasard. Et puisqu'on est dans un forum Attaque et que tu représentes Attaque et que tu en as fait l'historique brillamment tout à l'heure, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la dernière partie du mouvement altermondialiste, en France notamment, puisque Attaque part d'ici, part de la France. Et notamment le fait que l'altermondialisme, l'alternative politique que représentait Attaque a été malheureusement particulièrement mal menée par les fraudes électorales qu'a connues le mouvement l'été dernier, qui ont amené une énorme partie des militants à une déconvenue, à un doute sur la façon de poursuivre ce militantisme, et aussi aujourd'hui par le fait que notre président de la République ait pris un certain nombre de têtes de ces mouvements alternatifs, de Martin Hirsch à Ni Putin Ni Soumise, etc., et continue un travail de sape systématique par ce biais-là. Là, je pense qu'il y a urgence et qu'il y a une attaque frontale par rapport à ces différentes, à cette mouvance qu'on peut synthétiser, comme tu l'as fait, par mouvement altermondialiste. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une amorce de réflexion, de réponse à apporter à cette attaque sur attaque ?
C'est pas une question très facile que tu me poses, évidemment, mais elle est tout à fait pertinente, évidemment. Nous sommes confrontés. D'abord, Attaque n'est pas tout le mouvement altermondialiste, même si, évidemment, il a été, disons, la forme d'organisation nouvelle liée à ce mouvement. Donc, il a une responsabilité particulière. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison sur un point, c'est que Attaque a connu une période très difficile de crise. Et cette crise, elle a beaucoup de conséquences, mais elle a une conséquence surtout, à mon avis, c'est qu'elle nous a empêchés, en tant que mouvement, de réfléchir à l'adaptation du mouvement à la nouvelle situation. Bon, bien sûr, il y a la question de la fraude, bien sûr. Mais enfin, tous les mouvements connaissent des crises d'adolescence, tout souvent très, très difficiles. Et nous, c'est vrai que ce qui est particulièrement grave, c'est que énormément de choses ont changé au cours des 3 ou 4 dernières années. Et nous avons perdu 3-4 ans au lieu de pouvoir tous ensemble réfléchir sur la manière de répondre à cette nouvelle situation. Donc, sur Attaque, je pense qu'il y a une tentative très sérieuse de remise au travail, de prise en compte, d'élargissement. Et surtout, pour ma part, ça je donne mon point de vue, je pense que Attaque, c'est justement une construction finalement plus robuste qu'on ne pensait et est constitué par plusieurs instances, par plusieurs échelles. Il y a les comités locaux et beaucoup de comités locaux continuent à faire un travail tout à fait passionnant. Il y a les membres fondateurs et comme je le disais, l'existence des membres fondateurs, c'est quelque chose qui correspond à la nature du mouvement altermondialiste. C'est l'idée de la convergence des mouvements. Hein. Et par exemple, la campagne qu'il a eue sur la libéralisation de l'électricité ou sur l'écologie a montré l'intérêt de faire fonctionner ensemble et de faire converger les membres fondateurs. Il y a le conseil scientifique. Bon. Alors maintenant, à quelle situation nous devons répondre ? Bien, alors, vous m'excuserez parce qu'il y a certains qui me connaissent dans cette assemblée et ils vont trouver que je répète toujours la même chose. Mais moi, ça fait plusieurs années que quand on me demande de qualifier, de caractériser la période actuelle, je réponds par une citation de Gramsci que je trouve particulièrement belle et dure et qui a dit, un peu avant de mourir, le vieux monde se meurt. Et là, je pense que c'est la situation actuelle. Il y a des contradictions énormes, à tel point que l'on peut se poser la question si nous ne sommes pas à la fin de la phase du néolibéralisme et s'il n'y a pas une nouvelle phase qui est en train de se construire, qui n'est peut-être pas positive d'ailleurs, qui est peut-être de la militarisation ou un certain nombre de choses comme ça. Bon. Et puis, il rajoutait quelque chose qui est très optimiste. Le nouveau monde tarde à apparaître. Et pour moi, ce sont l'ensemble de ces nouvelles pratiques, de ces résistances, de cette élaboration qui est portée par le mouvement altermondialiste. Et y rajouter cette phrase terrible, parce qu'il a, il a écrit cette phrase en 35, 37 ou 38. Et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Voilà. Voilà. Et donc, il y a effectivement une période qui s'ouvre, qui est une période d'incertitude et de très grand danger. De très grand danger. Mais c'est une période aussi de contradictions. De contradictions. Donc, si on essaye maintenant d'analyser la situation en France, je dirais que en France, nous avons eu effectivement une défaite de la gauche, assez claire, je crois. Hein, bon, sauf pour ceux qui se retrouvent ministres aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils analysent la période. Enfin bon. Bon. Bon donc, nous avons une défaite de la gauche et nous avons et nous avons eu quand même un double mouvement du point de vue de ceux qui ont gagné à droite aux dernières élections. Une partie de ce mouvement, c'est ce que j'appellerais la montée d'une droite extrême. Cette droite extrême, c'est celle qu'on a vue monter dans tout le reste de l'Europe. Elle est très bien définie par Berlusconi, c'est-à-dire la capacité de remettre sur le devant de la scène des mouvements issus des courants fascistes, fascisants en tout cas, hein, comme on le voit bien en Italie, mais on le voit en Pologne aujourd'hui, on le voit aux États-Unis avec Bush, on le voit en Autriche, en Danemark, etc. Bon. Et aussi l'apparition de nouvelles alliances entre une partie de la droite et l'extrême droite. Bon, ça, c'est ce qu'on peut appeler la droite extrême. Mais ce qui s'est passé en France, ce n'est pas seulement... Il y a des courants de droite extrême, évidemment, forts, mais je pense... Alors ça, c'est une position personnelle qui n'a pas été... qui est en débat dans l'attaque. Hein. C'est que comment caractériser le régime devant lequel nous sommes, face auquel nous sommes. Pour ma part, je dirais que c'est un régime bonapartiste. Mais il faut que j'explique ce que ça veut dire bonapartiste. Un régime, dans l'histoire de France, d'ailleurs, il y a un texte de Karl Marx sur le 18 Brumaire, sur le Napoléon III, qui analyse de façon très intéressante Napoléon III et qui dit « En France, après les périodes de grandes contradictions, il y a un retour à l'ordre et la volonté de trouver un sauveur. Bon. » Donc c'est Napoléon III, c'est Napoléon Ier, c'est De Gaulle, etc. Bon. C'est Pétain, d'ailleurs, aussi. Bon. Donc, effectivement, le bonapartisme, c'est un régime, c'est si vous voulez, pour moi, c'est la définition, la version française du populisme. Or, nous avons la montée d'un populisme sous des formes différentes dans différentes régions du monde aujourd'hui, compte tenu des contradictions actuelles et compte tenu du fait que la bataille entre le vieux monde et le nouveau monde n'est pas du tout clairement, n'a pas clairement débouché. Qu'est-ce que c'est que le bonapartisme à la française ? C'est assez intéressant parce que d'une part, c'est la capacité de lier de l'identité nationale ou de la lutte contre la guerre ou de l'unité nationale ou de l'union nationale, hein, comme ça, ça a été souvent le cas, et aussi du retour à l'ordre, la notion d'ordre, et troisièmement, de la compassion sociale. C'est-à-dire que finalement, c'est d'une certaine manière une manière de s'adresser aux pauvres. Pour vous donner un exemple, si vous prenez quelqu'un qui a été quand même, qui a joué un rôle tout à fait déterminant dans le populisme français, c'est le baron Haussmann. Quand il a fait l'urbanisme de Paris, il a fait la place de l'Étoile pour les riches. Très belle place. Et il a fait la place de la Nation pour les pauvres. Très belle place aussi. Évidemment, elle est entourée d'une dizaine de casernes de gardes républicains. Bon, ça, c'est assez clair. Mais quand même, il y a une place pour les pauvres. Donc effectivement, il y a dans le bonapartisme un discours social. Mais il y a en même temps un discours vis-à-vis des riches, une décomplexion des riches. Hein, je crois. Bon. Et par exemple, Napoléon III, ben, tous les financiers, il en fait des barons. Il fait une noblesse financière. Hein, bon. Et de la même façon, aujourd'hui, on retrouve le mot d'ordre de Guizot, enrichissez-vous. Hein, c'est comme ça qu'on va sauver la France. Bon. Et puis, il y a aussi un autre élément dans le bonapartisme, c'est que la France est une société dans laquelle les contradictions de classe sont toujours très fortes et toujours violentes. C'est Edgar Faure qui disait en 68, quand il a fait sa loi d'orientation d'enseignement supérieur, en France, pour faire une réforme, il faut une révolution. Parce qu'il y a un équilibre entre les forces. C'est donc très difficile de trouver des réformes, même quand tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il faudrait quand même faire quelque chose. Et donc, c'est ce que Sarkozy a su capter quand il a dit « je suis pour la rupture », etc. Bon, c'est l'idée qu'à la limite, pourvu que ça bouge, hein, un peu, bien ou mal, mais pourvu que ça bouge. Et donc, le bonapartisme permet de la modernisation technique et économique, comme de Gaulle avec l'industrialisation ou Napoléon III avec l'industrie. Mais les bonapartismes se traduisent toujours par une lutte contre les libertés et contre la démocratie, parce que le sauveur, évidemment, c'est quelque chose dont on sait que ça passe justement par l'ordre. Et c'est très important de regarder. C'est pour ça que les mouvements comme RESF ou autres sont aujourd'hui tout à fait fondamentaux. Parce que c'est ça le front principal de la contradiction qui va devenir de plus en plus le front principal. N'oublions pas que De Gaulle arrive en 58 sur la guerre d'Algérie avec un discours de retour à l'ordre du sauveur et un discours social, celui de la participation, et il tombe en 68 sur une question de revendication de liberté. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est un peu ce... Donc nous sommes dans le début de ce cycle qui va être difficile et long, mais dans lequel effectivement je pense qu'il y a plusieurs contradictions nouvelles qui vont se développer. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'attaque? Là, j'essaie de répondre à la question attaque par rapport à ça. Bon, ma proposition, qui est en débat dans l'attaque, c'est que nous devons répondre sur trois fronts en même temps, correspondant à trois horizons différents. À court terme, ben, nous allons résister. Parce qu'il y a une liste, il y a une liste dans le programme de 23 ou 24 ou 25, ça dépend comment on compte, offensives, notamment sociales. Bon, effectivement, c'est la question du contrat unique, c'est la question du service minimum, c'est la question de l'université. Enfin, on peut reprendre l'ensemble. Donc, il va bien falloir résister pas à pas. Et au début, ça ne va pas être facile. Par contre, effectivement, dès maintenant, il faut reprendre l'offensive sur la question des libertés, même si elle n'est pas entendue tout de suite maintenant. Deuxièmement, sur le moyen terme, nous devons poser, et ça, ATTAC doit le faire, une réflexion sur le rapport entre le mouvement social et le mouvement politique. Et quand je dis mouvement politique, je ne veux pas dire forcément les partis. C'est de réfléchir à l'invention des nouvelles formes de mouvement politique correspondant aux avancées du mouvement social qu'il y a eu au cours des dernières années. Ça, c'est un débat nouveau qu'il faut ouvrir sans complexe. Et troisièmement, sur le long terme, et c'est le principal, nous devons mener la bataille idéologique, parce que si la droite extrême a gagné en Europe et dans le monde, c'est parce qu'elle a réussi à convaincre du fait que la pensée scientifique aujourd'hui permettait de fonder la question des inégalités sociales, que la génétique permettait de fonder la question des inégalités sociales. Et donc nous devons reprendre cette bataille pour montrer que c'est pas vrai que l'inné est supérieur à l'acquis, que c'est pas vrai que les inégalités sociales trouvent un fondement dans la génétique, que les incivilités sont le fondement du comportement social. Et nous devons travailler au niveau scientifique et philosophique pour démontrer que l'égalité et la solidarité sont des valeurs de reconstruction. Voilà ce que nous devons faire au niveau d'attaque, et je pense que nous avons commencé, mais petit, tout petit, quoi.
Je crois qu'on va arrêter là. Donc, je pense que ça vaut le coup de remettre, remettre à jour des cotisations attaque, hein, parce que le chantier est costaud. Et je crois que Hervé, un concert se prépare, donc d'ici 5-10 minutes.
On va devoir interrompre la discussion là. Donc, le temps que les musiciens s'installent et qu'on procède aux balances. Donc, merci à Antoine et à Gus pour leur présence éclairante. Merci à votre attention soutenue. Et puis bon, bah, ce 14 juillet, International List continue, donc avec ce concert de musique mandingue. Et toujours à 20h30, de l'autre côté du boulevard, un casse-croûte du Tonnerre de Dieu, avec de quoi l'accompagner de façon liquide et musicale. Alors à tout à l'heure.